J'ai besoin d'une formation qui me permettrait de développer mon activité, mais ma trésorerie est un peu serrée.
Mais attends, tu es bien comme moi, chef d'entreprise artisanale avec un statut de non-salarié ?
Oui, pourquoi ?
Parce que justement, tu contribues, tu peux demander une aide financière du FAFCEA. Va voir sur leur site fafcea.com ou contacte l'organisation professionnelle représentative de ton métier qui pourra t'aider.
Vous écoutez
RMC.
Alors, la fin de match entre la France et la Tunisie.
Weber, hein, il m'a dit que
les Bleus ont égalisé.
Il voulait pas aller dans le placard, il parie la
gueule.
Les Bleus ont égalisé dans la dernière minute du temps additionnel. La VAR a annulé le but après la fin du match. Alors ça, c'est possible d'annuler un but après la fin du match.
Ok.
Il faut quand même respecter un certain nombre de choses. Et il se trouve que la France a déposé un recours. Arthur Perrault, rebonjour.
Bonjour messieurs.
Alors revenons sur tout ce qu'il s'est passé entre l'instant où Antoine Griezmann a inscrit le but et le moment où la France a déposé réclamation.
Tu l'as dit Pierre, une fin de match totalement folle au bout du temps additionnel, un moment de flottement qui a surpris tout le monde, y compris le diffuseur TV qui dit au revoir à ses téléspectateurs avec un score de 1 partout. Le score final est bien de 1-0 pour la Tunisie à cause d'une position de hors-jeu de Griezmann au tout début de l'action qui amène son but. La VAR est nécessaire pour en avoir le cœur net, mais l'arbitre laisse les Tunisiens effectuer la remise en jeu après ce but. 2 secondes après, il siffle la fin du match et seulement ensuite, il décide d'aller voir l'assistance vidéo après avoir mis son doigt sur son oreillette. Si le règlement autorise de faire appel à la VAR après la fin du match, ce n'est en revanche pas possible si la remise en jeu est effectuée, ce qui a bien été le cas hier soir. Il s'agit donc d'une sérieuse erreur d'arbitrage et tard dans la soirée, on a donc appris qu'une réclamation à la suite du but d'Antoine Griezmann, refusée à tort selon la Fédération française de football, a été rédigée. Cette réclamation devait être envoyée dans les 24 heures. On vient d'apprendre à l'instant qu'elle a été envoyée et réceptionnée par la FIFA. Elle sera très vite examinée par la commission des règlements. Le but, le résultat pourrait être finalement, ce but pourrait finalement être accordé, synonyme de match nul, un but partout. Mais attention, la Tunisie, elle, pourrait dire, on fait appel en indiquant que Griezmann était bien hors jeu.
Très bien. Alors,
ça n'a rien à voir. Jamais, quoi. C'est appel contre appel, quoi. Alors, c'est ça.
Non, c'est surtout juste,
c'est parole contre parole.
Juste, ça changera rien sur les qualifiés. Non. En revanche, il y a des implications financières et sur le classement FIFA.
Et sur les paris sportifs.
Je vais même plus loin sur les paris sportifs.
Oui, mais les paris sportifs, la FIFA,
non, mais pour te dire,
c'est pas l'incidence.
Mais juste, je reviens sur le, avant de parler de ce qui s'est passé, même revenir sur le hors-jeu. Sur la règle du hors-jeu. C'est-à-dire que au moment du départ du ballon, il est en position d'hors-jeu, mais tu peux être en position d'hors-jeu et ne pas faire action de jeu.
Oui, c'est ça qui se passe. Gêner la déroulement
d'action. Puisque le Tunisien renvoie devant lui le ballon et donc du coup il y a une règle qui dit que l'arbitre peut aussi juger que il ne tire pas avantage de sa position d'hors-jeu puisque lui n'est pas
ça, bien sûr,
c'est la réalité puisqu'en plus il renvoie le ballon et que lui en se replaçant, il fait une volée alors qu'il est tout seul. Donc c'est là où il se met dans l'embrouille tout seul.
Mais l'arbitre, il
interprète même pas bien
la règle qui leur permet d'annuler le but, c'est que normalement, donc sur une passe de l'adversaire, passe volontaire, puisque le geste est volontaire, il est automatiquement remis en jeu. Griezmann. Donc normalement, on pense que le but est valable. Ils estiment, et ça c'est un détail du règlement qui existe, que le défenseur étant dans une position inconfortable pour faire son geste, on ne peut pas considérer que la passe est volontaire et que donc il remet en jeu Griezmann.
Non, mais moi c'est pas ça que je dis.
Pour ça que le but était refusé.
C'est pour ça, il a raison.
C'est la raison.
Pour
ça que le but
était refusé. D'accord, mais tu peux aussi partir du principe que il y a des actions sur des coups francs où il y a trois mecs qui sont en jeu.
99 fois sur 100, ce but-là, il est validé.
Il y a trois mecs qui sont en jeu. Le quatrième qui est pas en jeu reprend le ballon parce qu'il est au deuxième poteau et le but est validé parce que les trois premiers font pas
de
jeu.
Tout ça, c'est notre rapport en ligne de compte,
Non, mais c'est juste pour expliquer la règle du hors-jeu. Bien sûr, ils se sont embrouillés alors que pour moi, il n'est pas hors jeu, Griezmann. Puisque le ballon est court, qu'il est dégagé et qu'à se replaçant, il fait une volée merveilleuse, il ne tire pas avantage
Denis,
de sa position.
Ce qui est pas normal, tu as raison, mais ce qui n'est pas normal, c'est que l'arbitre qui va voir la VAR. Il se rend bien compte que justement lui il doit pas vouloir l'arbitre,
lui il a estimé que le but n'était pas valable, mais normalement la VAR ne peut plus intervenir dès lors
c'est
que
ça, le problème.
Je veux que tu dises où est le problème.
Il connaît pas la règle, l'arbitre.
Le problème, c'est que l'arbitre, c'est un néo-zélandais. Oui. Voilà, donc c'était un arbitre de rugby. Et comme les Néo-Zélandais, oui, ils avaient personne, ils ont envoyé un arbitre de rugby.
Il lui a pris les règles.
Il a pris les règles vite fait 15 jours avant parce que.
Non, mais c'est fou. En parlant de peur, Marshall m'a dit qu'il avait peur de monter la voiture dans le 36.
Olivier Marshall m'a dit qu'il ne voulait pas rentrer dans le coffre de la voiture.
Alors,
il
était obligé de mettre la lumière. Je vais leur dire d'arrêter ces conneries-là.
Est-ce que ça met une ombre sur l'utilisation de la VAR?
Parce
que
là, c'est... Non.
Imagine que on sait jamais. Alors moi je n'y crois pas, mais si jamais la FIFA revient sur la décision, ça voudrait dire que tu auras changé deux fois le score final après la rencontre. Mais ça serait catastrophique.
Ouais, mais ils reviendront pas dessus.
Je pense pas non plus.
Alors on va voir le côté positif des choses. Le côté positif des choses, c'est que ça arrive alors que ça change rien pour qualifier. Oui, imagine si ça qualifie la Tunisie
ou non, c'est pas la même.
Et que derrière il y a la réclamation. Va faire réclamation et va dire à la Tunisie.
Je me demande si l'arbitre dans le car vidéo aurait fait appel au central s'il a qualifié.
Dans ces histoires de VAR, je pointe toujours du doigt les mecs dans le camion, parce que les mecs dans le camion qui sont le cul au chaud et qui prennent pas les responsabilités et qui disent tu devrais aller voir sur un match qui joue plus rien, parce qu'ils savent que ça joue plus rien. Tu peux pas faire ta gueule.
Eric,
que de le mettre dans
ils prennent la double paye, la paye de l'arbitre et la paye du média vidéo, c'est cumulard, Pierrot.
Le VAR, le délégué FIFA, il n'est pas seul l'arbitre, ils sont staffés les arbitres.
Mais bien sûr, il n'y a pas aucun qui dit, c'est pas possible.
On n'a pas le droit de le faire parce que l'équipe a remis le ballon en jeu.
Les gars, c'est pas possible.
Interdit, c'est dingue.
Ils le savent bien.
Ils ont peut-être pas capté parce qu'il siffle un coup pour le coup de sifflet
et derrière il enchaîne
trois coups pour la fin du match automatiquement
dessus d'ailleurs.
Peut-être que dans le cas ils s'en sont pas rendus.
Mais il y a un truc qui est bon dans cette histoire là, c'est que au moins on sait que c'est fini, ça sort. On ne produira plus là. Mmh. Là, ils sont vaccinés, les mecs. Tu vois, et c'était sur un match qui ne comptait pas.
Allez, on zappe la Coupe du Monde et on va s'intéresser au Tour de France, Vincent, puisque l'officialisation a été faite aujourd'hui. Le Tour 2024 arrivera bien à Nice, puisque tu le sais, ce sont les JO à Paris en 2024. En revanche, ce qui a été annoncé qu'on ne savait pas, eh bien, c'est que la dernière étape sera un contre-la-montre. Ce sera la première fois depuis 1989. Et le dénouement incroyable entre Lemon et Fignon. Christian Prudhomme.
C'est une première, assurément. C'est-à-dire que Nice restera pour toujours la première ville en France à accueillir l'arrivée du Tour hors de Paris depuis 1903. Et avec un week-end complet à sillonner les routes de la métropole Nice Côte d'Azur, avec la montagne qui donnera peut-être un verdict le samedi et un contre-la-montre final le dimanche. Donc super heureux. Il y a évidemment des liens de confiance, des liens d'amitié, mais il y a d'abord le lieu, une ville qui rayonne dans le monde entier. La beauté de la mer, la luminosité. On arrive à Nice, on est à chaque fois frappé par cette lumière. Et puis il y a le terrain d'expression pour les champions. Et c'est pour ça qu'on va l'utiliser, ce terrain. Et le samedi et le dimanche dans deux disciplines différentes.
Christian Prudhomme, donc le
patron. Il n'a pas parlé de Marseille, il a dit
de France.
Ce qu'il n'a pas dit, c'est que avant le contre-la-montre, il y a Ciotti et Estrosi qui font le parcours.
Ça peut être historique.
Président des Républicains.
Si on parle de sport 30 secondes, ça peut être extraordinaire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un écart conséquent au départ de la dernière journée, s'il y a même, on va dire, une minute.
Non, mais c'est surtout que Nice.
Eh ben, tout est possible. Tu peux avoir un vainqueur du Tour qui se décide la dernière étape. Ça va être historique. C'est la dernière fois, Fignon, Lemon, en 89.
On va demander aux spécialistes, mais il y a de la montagne en plus avant d'arriver là, je présume.
Oui, c'est la montagne.
Vincent, ça te plaît le contre-la-montre à la dernière étape?
Oh non, ça me plaît. Moi, j'aime bien ce final à Paris. C'est magnifique sur les Champs-Élysées. C'est extraordinaire. Moi, je trouve que on reste un peu sur notre fin. La dernière étape, un contre-la-montre. Je veux bien qu'ils nous la vantent, Nice, la lumière et tout
ça. Non, mais il y aura de l'enjeu, Vincent. Tu pourras avoir le corridor.
Prudhomme, c'est un cinéaste, comme maintenant. On parle de la lumière, de la photographie, c'est Spielberg. Non, mais c'est vrai. Bon, ben, l'été, je me dis que c'est beau partout. Oui, il y a de l'enjeu, mais moi, ça me... Oui, mais t'es refait.
Il y a de grandes chances que ça joue avant.
Ça se joue avant, t'es refait sur un contre-la-montre. Tu peux pas voir.
Il y a un autre événement qui arrive ce week-end, Vincent. C'est Tyson Fury qui remonte sur le ring. Il remet les gants contre Derek Chisora. Ce sera sur RMC Sport. Et aujourd'hui se tenait la conférence de presse. Anthony Reich y a assisté. Tu as surtout assisté, Anthony, à un grand show de Tyson Fury.
Ouais, bonjour à tous. Effectivement, Pierrot, Tyson Fury s'est présenté sur scène en mode showman, en criant, évidemment, dans un costume très flashy, avec la ceinture sur l'épaule gauche. Il avait l'air plutôt affûté par rapport à ce que l'on avait connu par le passé, et un peu aussi mal poli quand même, il faut le dire. Normal. Sur cette conférence de presse, c'est du Tyson Fury dans le texte, en tout cas il était prêt pour ce combat. L'amitié n'existe pas dans le business et nous sommes dans une situation de business. On est venu pour vivre ou mourir sur le ring. J'espère que l'on fera un bon combat. Lors du traditionnel face-à-face de la conférence de presse, les deux combattants se sont fixés longuement sans agressivité car il y a beaucoup de respect entre les deux hommes. Mais Derek Chisora a prévenu Fury. Il est prêt pour aller à la guerre samedi soir.
Pour ce combat, je veux vous donner le meilleur premier round de toute l'histoire. Le premier round que l'on n'ait jamais vu sur un ring. De mon côté, ce premier round devra être électrique. Par moment, tu voudras t'asseoir, mais tu ne pourras pas t'asseoir. Tu devras rester debout.
C'est mes filles de ne pas s'asseoir, les.
60 000 billets ont été vendus pour ce combat au Tottenham Stadium samedi soir. Ce sera le troisième volet de leur rivalité. Fury a remporté les deux premiers combats.
Et ce sera sur RMC Sport. Oui, Vincent.
Fury, il est courageux quand même parce que on en a vu des champions, les Lennox, Lewis, Evite, tout le monde.
C'est clair.
Mais il y en a eu pas mal dans les années 90, qui même dans les années 2000. Hein. Lui, écoutez-moi, Tyson Fury, il a pris les meilleurs, Deontay Wilder, l'anglais. Il reprend Chisora, il est en danger contre Chisora. Mm-hmm. Je vais te dire, c'est un drôle de courageux. Moi, sa place, je vais te dire, j'aurais eu peur.
Louis m'a dit que tu avais eu peur de monter contre Kimbo.
Mais on est sur RMC Sport 2 à partir de 21h.
Les deux lourdingues, c'est le bon pétition, les deux.
Il y a Michel à Carrière.
Michel, il m'a dit.